Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h21 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Laurence au 3921. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laurence et quel âge avez-vous ?
J'ai 49 ans et là je vous appelle de Nantes.
De Nantes, d'accord. Oui. En ce moment, par moment, c'est drôle parce que il y a, vous savez, parfois, c'est Marseille. Durant une semaine, on n'a que des gens de Marseille, de Nîmes. Après, une semaine après, on a le Nord. Et puis, depuis un moment, on a pas mal de gens de Nantes qui nous appellent. C'est marrant. Enfin, voilà, c'est pas très intéressant, en fait, ce que je raconte. Mais,
ça voilà, permet d'étendre un peu la
voilà, douceur. Ça permet d'introduire un petit peu et de faire la causette, comme on dit.
C'est ça, voilà.
Alors, Laurence, qu'est-ce qui vous amène chez nous ce soir ?
Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Je ne sais pas trop par où commencer. En fait, on n'est pas entendu lorsqu'on veut protéger ses parents qui sont malades pendant des années et des années.
Oui.
Par les hôpitaux maintenant départementaux, je vais dire ça comme ça. Et du coup, ma colère, on ne comprend pas pourquoi les médecins refusent de soigner nos parents, en tout cas dans ma famille. Et maintenant, donc, nos parents sont morts, là, tous les deux. Donc, l'un en février et l'autre en avril. Et c'est très lourd parce qu'on est encore dans cette période de deuil où pourtant on doit faire plein de choses et on ne devrait rien faire, en fait. Et je ne sais pas trop comment c'est. Je crois que vous avez un petit résumé.
Oui, j'ai un petit résumé, mais je vous laissais introduire un peu votre intervention.
Ouais. Je
lis que vous êtes très en colère par rapport à des parents que vous avez accompagnés,
oui.
Mais que vous avez eu beaucoup de mal à accompagner, car visiblement, vous avez dû affronter les hôpitaux. Comment les avez-vous affrontés et pourquoi, en fait ?
En fait, il y a eu plusieurs choses, mais ce qui était le plus dur et qui est toujours le plus dur et le plus injuste, c'est une erreur de côté qui n'a pas été réparée, alors que mon père n'avait jamais marché avec une canne.
Oui.
Je me trouvais en l'espace de même pas 2 mois handicapé. Alors qu'il marchait, il allait aux toilettes, il faisait tout ce qu'il avait à faire et il s'occupait de sa femme. Il était aimant vers ses enfants, il décrochait le téléphone. Enfin, il n'avait pas de problème pour aller aux toilettes, prendre quelque chose dans le frigidaire, éplucher une pomme. Voilà. Et tout d'un coup, des médecins ont décidé qu'ils ne répareraient pas une erreur de côté et qu'ils couperaient la jambe.
Ah, carrément.
Carrément. Et on a beau crier, demander de l'aide, on passe pour des hystériques. Parce que dans leur tête, quelqu'un qui a, donc ça s'est passé on va dire il y a 10 ans maintenant, mais papa a tenu alors qu'il avait beaucoup de maladies, hémochromatose, je sais pas si vous savez ce que c'est une maladie familiale, maladie du foie, ça a des conséquences énormes. Et souvent c'est aussi dans ma famille, il y a d'autres cousins qui sont décédés et de cette maladie là et notamment une cousine qui est morte il y a pas très longtemps, à 60 ans et quelque chose comme ça. Et elle est allée aux urgences, et on l'a renvoyée à la maison avec des probiotiques et elle est morte toute seule chez elle. Et c'est sa sœur de Paris qui a fait venir les pompiers et elle était morte à la maison. Et bon, l'hémochromatose, c'est juste pour dire rapidement, c'est un dysfonctionnement du foie qui fait que comme la vitamine B1 va plus monter au cerveau et donc du coup, il va y avoir une dégénérescence du cerveau. Ça crée des pancréatites chroniques, ferritine, ça donne des gammes agitées, alors qu'on ne boit pas. Et du coup, en fait, ce que les médecins ont tendance à dire, c'est que la personne est alcoolique, parce que le teint est gris et tout ça, mais la personne ne boit pas. Mmh. Et on n'est pas cru, en fait.
Alors, je lis que vous révoltez sur votre... sur le destin qui a été le vôtre d'enfant, de parents maniaco-dépressifs.
Ah oui, c'est maman, mais ça, je vous parlais de papa, là, pour l'erreur de côté.
D'accord. Mais
je suis aussi révoltée par rapport à ça. Parce qu'en fait, il a fallu, depuis toute petite, que je sois à lire tout le temps les notices. Papa a toujours été à s'occuper de maman. Il a même dû arrêter de travailler parce qu'il s'est retrouvé à s'occuper de 3 enfants et une femme malade qui ne pouvait pas assurer à la maison. Et donc, du coup, ça a été l'horreur parce que il fallait vivre ça, il fallait vivre la psychose, il fallait la soigner et elle était soignable.
Elle était soignable.
Elle était soignable et elle était toujours d'accord prendre ses médicaments. C'était pas un type 1, enfin, quand on parle de typologie de maniaco-dépression, c'était pas une bipolarité de type 1. Enfin, peut-être c'en était une, mais c'était pas une forme avec des croyances comme quoi elle était super-héros et qu'elle prendrait jamais de cachet, c'était pas ça. C'était des formes dépressives très longues et des toutes petites hypomanies. Elle aurait été tout le temps hypomane, on aurait été heureux, mais ça aurait pas été un problème, ça. Mais donc voilà, moi j'ai plein d'histoires depuis bébé, on va dire, à devoir m'occuper de mes parents avec des maladies familiales.
Oui.
Et on n'a jamais d'aide, on n'a jamais personne. Et le pire du pire, c'est quand ils font une erreur, ils ne réparent pas. Et ils nous envoient toujours, depuis très longtemps, ils voulaient qu'on place maman, on n'a jamais cédé. Heureusement qu'on n'a pas cédé. Mais ma sœur et moi, ça nous a coûté notre vie personnelle, notre vie au travail.
Oui.
Destruction de la relation des jumeaux, puisque ma sœur et mon frère, ils sont jumeaux. Donc là, la relation est détruite. Parce qu'en fait, les médecins trouvent ça marrant d'aller raconter des bêtises à notre frère pour qu'il s'énerve, parce qu'il est un peu spécial, on va dire. Et du coup, lui, il s'est mis en colère contre nous. Comme ça, ils ont l'impression, comme ça, on va, en nous épuisant, on ne va plus réclamer le dossier médical. Comme ça, on va attendre la mort, parce que maintenant, on n'est plus tuteur, on est élu en droit. Donc, ils n'ont plus obligation de nous donner le dossier médical et ils n'ont plus obligation de réparer non plus. Donc, voilà.
Vous n'avez pas accès au dossier donc, de vos parents.
Ils ne sont plus tenus. Non, la direction est encore d'accord pour nous faire des médiations, mais ils ne sont plus tenus de nous donner le dossier médical. Et ça, ce n'est pas juste. Parce qu'en fait, on a été plein de fois. Avant rendez-vous avec la direction, mais on nous donne des rendez-vous pour voir le dossier, mais il n'y a jamais le dossier électronique, et la majorité d'informations étaient dans le dossier électronique. On nous donne des tas d'enveloppes avec des papiers qui ne servent à rien, et notamment des lettres de notre frère, qu'en soi-disant on n'est pas censé voir, des choses... Enfin, voilà, ce qui a entraîné... Enfin, ça a été très loin, parce que notre frère nous a envoyé au tribunal des affaires familiales, il nous a été envoyé deux fois en référé à Rennes.
Pour ça, pourquoi, en fait? Pourquoi votre...
Parce qu'en fait, ce que raconte l'hôpital, c'est de dire que c'est de la faute de ma sœur et moi si la situation s'est développée comme ça, qu'on a voulu tuer notre père, alors que nous, on demandait juste qu'on lui mette un sphinx pour qu'on répare sa jambe, qu'on laisse pas la gangrène se développer, qu'on n'ait pas d'amputation. Et ils ont été racontés à notre frère que nous, on a voulu l'euthanasier, ce qui est faux, parce que nous, c'est impossible en France. Et du coup, notre frère s'est mis en colère. Et lui, il a été raconté au département, plein de lettres au département. Et le département est devenu fâché, donc il l'a envoyé aux affaires familiales. Et après, en référé à Rennes, parce que Eric ne voulait pas payer... Pardon, j'ai dit une bêtise. Notre frère ne voulait pas payer... son obligation alimentaire, parce qu'à partir du moment où vous découpe quelqu'un en morceaux et qu'on vous empêche de le récupérer à la maison, ils mettent dans leurs EHPAD qui appartient à l'hôpital public.
Et donc vous devez
payer.
Et donc du coup
on doit payer. Et forcément nos parents étaient à compte déficitaire, puisque pour gérer la maison il fallait qu'ils aient l'ensemble de leurs deux retraites, parce qu'en dessous de 1 500 euros on peut pas vivre en France.
C'est pas possible.
Et donc, du coup, quand il y a un qui est à 750 et l'autre à 650, donc on arrive juste ce qu'il faut. Simplement, quand il y en a un qui est à 750, il doit donner 100 à l'autre pour que l'autre ne se retrouve pas en dessous du niveau de vie minimum. Mm-hmm. Vous êtes à compte déficitaire. Excusez-moi, vous voulez arrêter.
Non, on va continuer d'évoquer cela. On va marquer une petite pause, Laurent, si vous voulez bien. Et puis, vous allez reprendre un peu votre souffle et vos émotions. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes, d'accord?
Merci,
à tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21, 75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h31 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Appelez-nous au 39 21. Julia et Florian sont là avec Laurent, notre réalisateur, et attendent vos appels, chers amis. Donc je suis là et nous pourrons échanger ensemble comme avec Laurent ce soir. Nous évoquons toutes les difficultés qu'elle et sa sœur et votre frère aussi, hein, finalement, ont rencontrées parce que vous vouliez accompagner vos parents le plus loin possible. Est-ce que c'était une volonté tout d'abord de les garder à la maison, Laurence? Parce que on parle de cela ce soir pour la France, nombreux sont les pays où les parents continuent de vivre chez eux avec leurs enfants. Il y a certains pays où les EHPAD, on ne veut pas en entendre parler, et où la tradition veut que les parents vivent avec leurs enfants. Donc, à la base, si vous voulez, votre combat, il est tout à fait légitime et il n'est pas entendable par certains médecins, sans doute. C'est là tout le problème, en fait.
Et on s'est battu pour notre mère. On s'est battu parce qu'il voulait déjà la placer quand elle avait 70 ans. Je crois que j'avais dans les 25 ans, je commençais, il y avait pas longtemps que je travaillais à l'époque, et ils nous convoquaient déjà pour qu'on la place, et on ne voulait pas. Oui, et heureusement qu'on ne l'a pas fait. Et même à la fin, elle voulait rentrer à la maison parce qu'elle est décédée d'un cancer horrible. Et ils nous l'ont. Alors qu'on avait tous les droits d'avoir l'HAD à la domicile, donc c'est l'hospitalisation à domicile, ils nous l'ont kidnappée. Et on dirait que les quelques gouttes de morphine sortaient, c'était des sous qui sortaient de la poche du médecin. Hein. C'était terrible pour avoir 20 mg. C'était horrible. Et je vais vous dire encore quelque chose d'horrible. J'ai été obligée de payer 500 euros aux pompes funèbres pour la faire recoller. Parce qu'elle n'était pas visible par ses neveux et ses nièces.
D'accord.
Donc c'était horrible. Mmh. Et alors que nous, on devait avoir la HAD, c'était absolument injuste. Et on n'a même pas su quel cancer elle avait, et ils n'ont pas voulu nous recevoir. C'était horrible, horrible, horrible. Et puis même j'ai voulu poser des questions sur le vaccin, parce qu'on nous a forcé à faire le Pfizer pour eux deux, et ben impossible d'avoir une seule réponse.
Mmh. Et en fait, vous évoquiez votre père tout à l'heure, donc...
Oui. Le plus dur, enfin non, les deux sont durs, mais notre père, c'est vraiment injuste, parce que grâce à lui, notre mère, quelque part, elle a eu une vie, parce que par rapport à d'autres... Enfin, d'après le médecin psychiatre que maman avait, il disait non, il y avait d'autres hommes, d'autres conjoints qui s'occupaient de leur partenaire malade. Néanmoins, maman n'avait pas eu son mari ou nous, elle aurait été en appartement thérapeutique, ce que nous avait expliqué le psychiatre. Et à chaque fois, lui, à l'époque, il me disait « Écrivez, 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 parce que moi, je ne sais plus comment faire avec l'administration. » Parce que en fait, déjà, il y a 20, 30 ans, déjà, les médecins qui voulaient monter au créneau auprès des directions pour défendre leurs patients, avaient un mal fou à obtenir raison. Pas à cause de la direction, à cause des politiques qui gèrent l'hôpital public.
D'accord.
Et c'est ça qui est le drame. Et donc, ce que je disais aussi à Florian, je ne sais pas si c'est le moment de l'aborder, mais qu'est-ce que veut le gouvernement? Pourquoi supprimer autant de professeurs en gériatrie? Pourquoi supprimer autant de professeurs ou de médecins psychiatres? Où est-ce que veut aller le gouvernement? C'est quoi son souhait? Parce qu'il a confié les hôpitaux publics à la gestion des départements. Et donc, par exemple, maman, je l'ai eu beaucoup à Nantes avec moi. Du coup, j'ai pu comparer les soins qui étaient donnés quand on était malade à Nantes et les soins qui étaient donnés dans l'autre département où je me plains. Et c'est quand même dingue que normalement, on devrait avoir les mêmes soins quel que soit le département. C'est pas correct. Mm-hmm. Et tout ça dépend de la politique locale, et en particulier, ça dépend pas de notre sénateur, ça dépend pas de notre député, ça dépend pas du maire de la ville où se trouve l'hôpital qui représente, qui siège au conseil, je sais pas quoi, de l'hôpital. Ça dépend de la dame, parce que maintenant c'est des bidômes en local au niveau des politiques locales. Il y a un homme et une femme. Moi, je préférais qu'il n'y ait pas cette obligation-là, parce qu'on donne à la dame le social. Et si cette personne-là n'est pas sociable, et même, je dirais, méchante, parce que c'est la seule qui ne nous a pas parlé, elle dit qu'on ment, de tous les politiques qu'on a vus, et on a parlé à tout le monde, c'est grave, quoi. Enfin, c'est cette personne-là qui décide de tout. Et tous les autres, ils vont dire, moi, je veux bien écrire, mais si elle ne fait rien, moi, je ne pourrais rien faire. Je veux bien écrire, mais si elle ne fait rien... Et du coup, tous les médecins, ils partent. Et ils partent avant l'âge de la retraite. Ça, c'est pas normal pour un médecin, je comprends pas. Je comprends pas le but. Et peut-être pour elle, cette dame-là, ça lui fait des lignes de coûts en moins. Mais c'est du court terme. Parce que si on calcule le coût total, par exemple, imaginons que nous, mon frère et ma soeur et moi, on n'ait pas travaillé à l'école, ou que notre père ne se soit pas arrêté de travailler pour s'occuper de nous, pour éviter qu'on tourne mal. Imaginons qu'on soit parti dans la drogue parce que notre maman ne s'occupait pas de nous. Ça aurait été des drames encore pires. Donc, c'est vraiment un point de vue. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est un point de vue. Ils enlèvent des lignes de coûts en court terme. Ils ne voient pas du tout les conséquences long terme que ça peut avoir. de faire des choses comme ça.
Mais,
allô ?
Oui, oui, je vous écoute. Je suis en train de réfléchir. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps.
Je suis perdue, moi.
Mais en fait, aujourd'hui, vous voudriez quoi, en fait, aujourd'hui ? Vous voudriez...
Bah, moi, personnellement, directement, c'est qu'on nous aide à trouver un avocat, parce que nous, notre avocat, il peut plus faire rien du tout, parce que lui, il fait, il fait des réparations de dommages corporels quand la personne est vivante. À partir du moment où la personne est morte, même si l'hôpital nous dit, dites par le biais de votre avocat combien d'argent vous voulez, lui, il ne fait pas un marchand de tapis. Donc, on n'a pas d'avocat, ça ne se fait pas en France. C'est pas, on n'est pas aux États-Unis.
D'accord, oui, je comprends.
Ça, c'est déjà réparation, c'est minimum, quoi. Et puis, parce que du coup, bah, moi je n'ai pas pu continuer mon travail, parce que vous savez bien comment ça se passe quand vous avez votre employeur qui vous voit partir en congé. Moi, je travaille à l'étranger. Donc, qui vous voit partir en congé à 800 km pour un jour pour pouvoir aller à un tribunal et que ça se répète comme ça et que bah, votre frère, il vous appelle au travail et que ça stresse tout le monde, bah, vous ne gardez pas votre emploi. Hein. Parce que tout le monde pense que l'angoisse, c'est contagieux.
Oui.
Et le burn-out aussi.
Et là, où en êtes-vous avec votre frère aujourd'hui ? Parce que maintenant, vos
alors,
parents...
lui, carrément, toutes ces procédures qu'il faisait avant, c'était pour avoir une autorisation, je vais dire un mot un peu bizarre, de divorce avec ses parents. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus respecter la constitution française qui était de dire qu'à partir d'un certain âge, 60, 70 ans, je ne sais pas, les enfants ont obligation de subvenir aux besoins des parents qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Mmh. Donc lui, il voulait divorcer par le biais de toutes les démarches juridiques qu'il a faites. Il voulait divorcer de ses parents, c'est-à-dire qu'il n'était plus leur fils, donc il n'avait plus d'obligation légale envers eux, ce qui était impossible. Et donc du coup, là, il l'a fait parce que maintenant, il a signé ses papiers de refus de succession et qu'il ne veut plus entendre parler de la famille. Donc ça a été quand même très loin parce que c'est quand même le jumeau de ma sœur, donc c'est un drame parce qu'ils n'ont pas du tout la même relation que moi je peux avoir avec eux. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'est un drame familial total. Pendant 5 ans, il n'a pas vu notre mère. Et elle a été jusqu'à aller à pied pour le voir et lui a demandé, parce que, alors qu'elle marchait très mal avec sa hanche, elle lui a demandé de le ramener en voiture à la maison. Il a dit non, ils ont été très loin dans leur démarche de... Alors je ne sais pas si l'hôpital, ça relève de la bêtise ou ça relève de quoi, d'aller raconter des bêtises à notre frère pour que pendant ce temps-là, lui, il nous attaque, comme ça on perd notre capacité à vivre, hein, on va dire, ou à avoir notre cerveau. Ils nous mettent en burn-out, comme ça on les laisse tranquilles et on ne demande pas réparation. Je ne sais pas où ils veulent en venir, quoi. Alors qu'il était aussi simple de réparer mon père et de le refaire marcher, puisqu'ils avaient fait une erreur de côté.
Qu'est-ce que vous appelez une erreur de côté depuis tout à l'heure, je ne comprends pas.
C'est quand ben lui, il est tombé, donc il avait le col du fémur cassé sur un côté seulement, pas sur les deux. Donc il avait une jambe qui était bonne.
Oui.
Et donc pendant 5 jours, il devait l'opérer en urgence. Et tous les jours, il y avait d'autres priorités. Et pendant 5 jours, il ne lui donnait pas à manger. Parce que soi-disant, on devait l'opérer. Donc, il est devenu un cadavre, on va dire. Et un jour où il y a quelqu'un qui a dit, bon, on va l'opérer, celui-là, eh ben, il a opéré comme les brancardiers l'ont positionné sur la table. C'est-à-dire qu'il a mis des pièces en T dans des os sains.
Ouais,
il a mis
d'accord.
Des pièces métalliques dans des os sains. Et après, il nous a appelé le soir en disant, vous inquiétez pas, je vais le réopérer de l'autre côté. Mais à chaque fois, il n'y avait aucune prise en compte de son état de fatigue. Et ma mère a été opérée dans un autre établissement privé à côté. Et ben, elle n'a pas du tout le même traitement. Et avec sa maladie mentale, ils ne pouvaient pas lui faire n'importe quoi comme narcose. Et ben, il existe d'autres possibilités d'endormir les gens sans utiliser des produits massifs qui détruisent la personne, quoi. Donc il a eu 2 anesthésies générales violentes, coup sur coup, en fait 5 jours sans manger, et puis après, bah, quand ils lui ont fait l'amputation mi-cuisse, illégalement en plus, et ben, puisqu'il voulait pas lui mettre un sphinx pour réparer sa jambe, et il a encore eu donc 3 anesthésies générales, complètement aberrantes pour quelqu'un de son âge. Ils pouvaient le réparer, ils l'ont pas réparé, il était motivé pour remarcher. Ils se sont débarrassés de lui pour dire que leur erreur n'a causé que 2 jours de plus d'hospitalisation, alors que nous, on a payé des factures pendant des mois et des mois d'hôpital. Et puis surtout, ils l'ont toujours mis en soins de suite. Comme ça, il n'y avait pas de réparation, parce qu'en soins de suite, il n'y a pas de kiné, il n'y a personne. Donc, ils n'avaient jamais eu l'intention de le remettre sur pied.
Oui, c'est ça. Il n'avait jamais eu... Ouais, ouais.
Jamais il y a eu l'intention de le remettre sur pied. D'abord, s'ils avaient l'intention de le remettre sur pied, ils l'auraient opéré tout de suite, parce que c'était une personne fragile qu'il fallait opérer tout de suite, surtout avec une hémochromatose. Et ils n'ont pas fait. Et pendant ce temps-là, nous, on a beau téléphoner tous les jours. À partir du moment où vous êtes en post-urgence, c'est les vieux vont payer la maison de retraite et par défaut, les enfants paieront et point, c'est tout. Et donc, du coup, c'est pas du tout logique, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe quand on est hospitalisé dans la clinique privée à côté ou à Nantes. À Nantes, il y a une grande écoute des familles. S'ils ne connaissent pas bien le patient, ils ont tout intérêt à écouter la famille qui explique. On les connaît mieux quand même, nos parents, donc on sait les traitements, on sait, on connaît par cœur le dossier médical. Donc c'est quand même mieux de faire confiance que de jamais parler. Et dans l'autre établissement, ils ne parlent pas. Parce que le but, c'est faire vendre, enfin, moi c'est comme ça que je m'interprète, après je peux avoir tort. Faire vendre les maisons aux gens pour qu'un autre type de population arrive dans la région.
Oui.
Faire vendre les maisons aux gens parce que nous, on va les vendre pour la valeur de l'hypothèque que l'hôpital nous a mis sur le dos. Et puis voilà. Et puis, on va devoir quitter notre village et notre pays. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont des bah, notamment, je vais dire la vérité, vous savez très bien, je ne veux pas vous évoquer le nom de la ville, mais vous avez vu la région d'où je viens.
Bah, vous m'avez dit Nantes tout à l'heure.
Non, c'est là où je suis, je vous appelle de Nantes. Mais, ouais, mais
j'ai vu que tout ça avait eu lieu dans la région de Vannes.
Dans un autre département, et ouais. je ne voulais pas vous évoquer où, mais en sachant que du coup, il y a une grosse masse touristique qui arrive, et donc c'est comme si ils souhaitaient que les gens du coin, qui sont soi-disant, bah, on va dire, hein, qui ont... Et, mon père, s'il avait une petite retraite, c'est parce qu'il avait un chantier naval. Ben, il a nourri plein de gens. Et ben, un chantier naval qui est encore connu. Et ben, aucune reconnaissance, quoi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de retraite. Quand on est à son compte, on n'a pas de retraite. Et pourtant, on a nourri des gens. Enfin, c'est pas juste, quoi. Et pour installer une nouvelle population de notables, on va dire, qui viennent de là où on vend ces logements très chers, du coup on peut arriver avec une masse d'argent importante et comme il y a beaucoup de demandes dans notre coin, ben voilà, on ne peut plus y habiter, nous personnellement. On ne peut plus habiter là où on est né.
Ouais, on ne peut plus habiter là où on est né, ouais. Aujourd'hui, en fait, la famille se retrouve éclatée en plus, donc je suppose que ça c'est aussi un... quelque chose qui est très lourd pour vous.
C'est un chagrin énorme.
Ouais, vous étiez très lié.
C'est très lié. Moi, j'ai du chagrin. On dirait que je suis née avec du chagrin tellement je suis triste tout le temps, quoi.
C'est très triste, tout ça. C'est très triste. Mmh. C'est sûr que vous avez aujourd'hui vécu, comme je vous le dis, avec une volonté... De faire le meilleur, d'obtenir oui. Le meilleur pour vos parents. Et vous avez affronté comme souvent, avec peu de moyens, vous avez affronté une administration qui n'en avait pas, elle n'en avait pas après vous, hein, cette administration. Elle croule sous la paperasserie, sous une activité énorme, et elle n'écoute pas. Souvent, les médecins n'écoutent pas, en fait.
Non, mais écoute pas, mais ils ne veulent pas non plus qu'on leur parle.
Il y a beaucoup de médecins qui écoutent, hein, je ne veux pas dire que...
Ah oui, ben encore une fois, à Nantes, hein, y a
moi, je ne connais que des médecins, j'ai cette chance, qui sont très investis, mais malheureusement, en étant là où je suis, à cette libre antenne, vous n'êtes pas la première qui relate ça, que vous n'avez pas été entendu. On s'est trompé, on n'a pas avoué avoir fait une erreur. En tout cas, on a eu du mal à accepter qu'on avait fait une erreur de diagnostic concernant votre père et puis votre mère ensuite. Donc, c'est compliqué.
Mais c'est pas ça le pire du pire. Le pire du pire, c'est qu'on a eu des médecins qui sont montés au créneau, qui sont allés à la direction pour nous défendre. Mais c'est que pour nous, ils ont été virés. Puisque, en fait, du jour au lendemain, le professeur de gériatrie qui a voulu qu'on faire réparer notre père, il avait dit, de toute façon, si c'était quelqu'un de ma famille, je le ferais. Donc, comme tout, on avait tous les éléments pour le faire réparer avant que la gangrène se développe. Il n'a pas été entendu. Et le lendemain, il n'était plus possible que de lui envoyer des emails. On ne pouvait plus lui parler au téléphone. Et les secrétaires disaient qu'il était à la retraite. Comme ça, du jour au lendemain. Et tous ceux qui se sont appliqués à fond, soit partis en burn-out, soit donc le psychiatre de maman, je lui ai demandé de venir faire l'expertise de papa pour faire le renouvellement de tutelle. Et ben là, ben le lendemain, enfin, on avait rendez-vous, ben il est venu exprès avant l'heure, il était parti. Après, j'ai appelé les secrétaires, on ne savait pas où il était parti. Disparu. Il est parti en privé. Maintenant, il y en a un autre très bon psychiatre disparu. Enfin, après, les infirmières de secteur, elles ne savent plus comment faire parce qu'elles n'ont plus de médecin. Et puis, elles n'ont même plus le droit de passer voir les gens. Avant, elles allaient à leur domicile. C'était le meilleur moyen de savoir si la personne ne vous ouvre pas la porte, c'est qu'elle est malade. Sinon, elle vous offre le café, la personne. Mmh. Et bien, elles pouvaient faire des signalements pour dire qu'il y avait quelque chose à faire. Ben maintenant, elles ne peuvent plus. Le patient doit venir signer un contrat comme quoi il va venir au rendez-vous avec son infirmière de secteur au CMP. Ben, quand vous êtes malade, vous n'êtes pas capable de bouger votre fesse de votre canapé. Enfin, je ne sais pas, moi. C'est pas parce que vous avez signé un contrat. Et si vous ne venez pas, un ou deux rendez-vous, hop, vous êtes éliminé, vous n'êtes plus dans le CMP. Vous n'êtes plus suivi.
Ah, d'accord.
C'est ça se fait pas, quoi. Imaginez, c'est une maman qui est alcoolique et tout ça, ben, elle arrive plus, il y a des enfants, et ben, les enfants, ils font quoi? Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est quoi ce que fait le gouvernement, là? C'est, on va mettre tout le monde en prison parce que tout le monde va se retrouver drogué, alcoolique, et il y aura personne pour les soigner. Enfin, je sais pas comment dire, hein. C'est comme ça ma vision des choses. C'est-à-dire que tous les médecins qui ont voulu aider, ils ont tous disparu. Et bien avant l'âge de la retraite. Pour mettre à la place des gens pas honnêtes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Des gens pas honnêtes. Et puis, quand ça fait longtemps qu'on travaille avec des dossiers médicaux depuis l'enfance, donc ça veut dire qu'on a 45 ans d'expérience, en tout cas dans mon cas, j'estime. Mmh. Et bien, on n'a pas pour longtemps à savoir le niveau du médecin. Hein. Et qu'en plus, comme moi, je travaille à l'étranger, et ben, je connais les niveaux internationaux. Je sais qui va aller donner des cours et tout ça aux États-Unis, par exemple. Et quand je vois qu'on élimine un professeur qui donne des cours aux infirmières, donc qui, à la fin, va faire gagner de l'argent, parce que du coup, les infirmières ont des idées et tout ça. Mais on dirait qu'il ne faut pas que les infirmières et les aides-soignantes aient des idées. Parce que si ces gens-là ont des idées, ben, les autres, les politiciens, ils ne pourront plus imposer leurs règles. Ils risquent de plus être réélus après s'ils font des bêtises. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ils se tiennent tous en plus, que ce soit le.
Oui, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça.
Non, ça ne changera pas.
Ça ne changera pas malheureusement. Ouais.
Ça s'empire ça. Et le pire, c'est que le député il dit ah ouais, mais vous savez, je sais qu'on a envie de donner un coup de poing à quelqu'un, mais si vous trouvez pas quelqu'un pour vous représenter, le problème c'est que on trouve pas d'avocat parce que eux aussi ils ont peur. Enfin, ils ont peur. Ils ont pas envie d'avoir ce genre de dossier. On trouve pas d'avocat, ou alors ils nous font payer, mais ils font rien. Mmh.
Donc du coup, aujourd'hui, en fait, Laurence, vous essayez de recoller les morceaux avec votre frère. Est-ce que c'est possible ou c'est définitivement...
Non, ça c'est fini. Là, j'arrête. On a arrêté et c'est plus simple. On reviendra pas sur ça. Mmh.
Mais vous savez, il faut vraiment... aujourd'hui, que vous comptiez vraiment sur vous, hein, et que
oui.
et que vraiment vous maintenant vous vous concentriez sur vous, sur votre vie personnelle ainsi que votre sœur, parce que vous avez assez dépensé d'énergie comme ça, hein, vraiment.
Oui,
hein.
mais quand même, j'aimerais bien quand même trouver un avocat qui nous représente et qui fasse quand même une démarche de porter plainte ou ce qu'il y a de possible de faire. Que je puisse faire un signalement, que ça n'arrive pas aux autres, parce que ça va arriver aux autres. Et ça arrive à d'autres, c'est obligé. Je ne peux pas avoir tiré une pochette surprise où tous les coups je perds. C'est pas possible. Mmh. C'est pas possible. Il y a vraiment un dysfonctionnement et que personne ne veut reconnaître. Et qu'en plus, les médecins de post-urgence ou les patients sont. Parce que ça va bien quand on est en urgence. À partir du moment où on est en traumato et de traumato, on passe à cette post-urgence, bah là. Les choix qui sont faits sont pas logiques et pas, enfin, ça n'a pas de sens. Et les nouveaux responsables médecins de secteur de pôle psychiatrique ou pôle gériatrie, c'est quand même des gros sujets au niveau de la société. Et c'est des sujets qui rapportent beaucoup d'argent en plus. Bah, c'est des gens qui ne tiennent pas la route, qui sont pas qui
tous,
ont pas
de
niveau pour faire
pas,
ça.
Pas tous.
Pas tous. Non,
pas
mais
tous,
moi, je parle des miens. Hein.
Oui,
je parle pas des autres départements.
Ouais, vous parlez de ceux de Vannes.
chut. Oui, mais gardez ça.
Personne ne vous écoute. Pas comment ça va.
Voilà. Donc du coup, moi, j'aimerais quand même trouver un avocat qui un peu nous représente et nous dise où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, et voilà.
Vous savez, Yvette au 739-21 dit que malheureusement, beaucoup de personnes sont comme vous dans des situations extrêmes comme ça et qu'elles ne sont pas écoutées. Hein.
Oui, mais pourquoi tout le monde se laisse faire? Je ne comprends pas, moi. Ça me met en rage. Pourquoi on se laisse faire?
Alors, elle a une question, Yvette, pour vous. Pourquoi on se laisse faire? Non, mais vous ne vous laissez pas faire, mais vous ne vous êtes pas laissé faire, Laurence. Mais
vous avez essayé. J'ai obtenu gain de cause, gain de cause.
Ben oui, mais finalement, c'est ce que j'allais vous dire. Le résultat était le même. Hein
et oui, mais bon, par rapport à ma vision des choses, le résultat est le même. Je préfère quand même avoir essayé de défendre mes parents que d'avoir rien fait d'avoir juste observé la torture. Hein.
Bien évidemment, Laurence, ça n'est pas ce que je vous dis. Je dis que vous vous êtes battu et que malheureusement, même si vous vous êtes battu, le résultat il est le même. Yvette a une question. Elle voudrait savoir qui profite, à votre avis, et comment est utilisé l'argent de toutes ces personnes placées dans ces maisons, ces EHPAD ou ces maisons médicalisées.
Bah, je pense qu'il est peut-être réutilisé pour... Parce qu'en fait, si vous restez à domicile, c'est pas récupérer l'argent. Mmh. Donc en fait, ils font un service de vase communicant, je suppose. C'est-à-dire que l'argent de nous est récupéré. Soit peut-être aussi l'hôpital qui utilise aussi les bénéfices pour faire d'autres choses, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Et le département qui récupère, les hypothèques... Il y a quand même pas mal d'administratifs, donc ça coûte quand même assez cher hein, de mettre les hypothèques aux gens, de récupérer l'argent, parce que pour payer les obligations alimentaires, tout ça, il y a pas mal de dossiers, il y a pas mal d'interventions en justice avec les juges des affaires familiales et des tutelles, donc du coup, il faut payer tout ça. Hein. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un système de vase communicant, c'est-à-dire que par exemple, il y a plein de gens qui vont avoir les moyens de rester chez eux, mais qui vont avoir des aides. Et ben, eux, ils vont récupérer l'argent du pauvre idiot qui s'est laissé faire. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Enfin, c'est une affaire politique. Hein. Il y a de l'argent en jeu, ça c'est sûr, beaucoup beaucoup d'argent. Et du coup, il y a des vases de communicants. Après, moi, je me suis même demandé si oui, c'est ça, c'est changer la population locale pour qu'il n'y ait plus. Les gens, on va dire, petits, pour mettre des gens d'autres départements plus notables, qui vont développer une nouvelle économie, j'en sais rien. Je sais pas.
Ouais, en tout cas, vous avez traversé quand même pas mal de galères, malheureusement.
Oui, mais voilà, c'est pas une raison pour que ça continue. C'est
non,
pas ce que
bien évidemment, bien évidemment. Et à votre avis, en fait. Il faudrait quoi? Il faudrait que toutes ces personnes qui sont dans ce type de situation se retrouvent dans des associations, créent des associations de lutte.
Alors, les associations, je ne sais pas, mais déjà qu'il y a une communication. Mais moi je ne suis pas très association. Je préférerais qu'il y ait une écoute des politiques locales et que ça se parle, en fait. C'est-à-dire que ouais, je sais pas, c'est-à-dire que en fait, pour moi, le problème de fond, c'est que en fait, moi j'ai travaillé dans la moi j'ai toujours été dans l'industrie, donc du coup j'ai une vision industrielle et le système administratif français, si je le compare en hospitalier par rapport à d'autres pays. Dans les autres pays, c'est beaucoup plus industriel parce que, eux, leur système est privé, en fait, une sorte de privé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... L'État investit de l'argent au travers leur système de sécurité sociale, mais pour des groupes privés. Alors que, donc, du coup, l'industrialisation est meilleure et du coup, il y a plus de respect, il y a plus d'écoute client. Alors que comme nous, ça passe par des politiques, si votre politique locale... quelqu'un de pas sain ou qui veut pas comprendre ou qui veut pas entendre, y a rien qui suit derrière. Parce qu'il va positionner que des gens qui lui ressemblent à la direction et en médecin de responsable de pôle. En gros, moi, j'estime que ça relève de la bêtise, leur comportement.
Et bien évidemment, sans doute, il mise sur le fait que vous éreintiez au bout d'un moment
sûr.
Et que vous laissiez tomber.
Mais oui.
Ouais. Merci en tout cas.
Oui, c'est ça.
Merci en tout cas pour votre participation ce soir.
Je voulais savoir si Orline, vous pouvez nous aider quand même à conseiller pour trouver un avocat.
Écoutez, c'est compliqué. Dans votre région, là-bas, où vous avez eu tous les soucis...
Non, pas forcément. Ça peut être ailleurs. Quelqu'un qui pourra au moins nous donner conseil. J'ai pas besoin que ce soit dans ma région, puisqu'on peut se parler par téléphone.
Écoutez, je vais vous passer Florian, vous ne raccrochez pas. Vous allez lui laisser toutes vos coordonnées. Hein, et puis, on va essayer de réfléchir de quelle manière vous pouvez... trouver un avocat ou vers qui on peut vous orienter, parce que je pense qu'on peut vous orienter vers des associations. En tout cas, vous pouvez compter sur nous, ma chère Laurence. Je vous souhaite plein de courage. Hein. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, concentrez-vous hein, maintenant sur votre vie et le lien que vous avez avec votre sœur. Et puis, je vous souhaite plein de courage.
Au revoir.
Au revoir, Laurence. Je vous embrasse bien fort.
Merci, au revoir.